Nous continuons notre périple ce matin dans le livre historique de l'Ancien Testament, qui est le livre de Josué, et qui commence avec sur une note sombre, au verset 1, après la mort de Moïse. Donc, tournons dans Josué, au chapitre 1, et notre péricope ce matin sera les versets 7 et 8. Donc, Josué 1, versets 7 et 8. Seulement fortifie-toi, aie bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes reconnaissants, notre Dieu, de ce que nous pouvons entendre ta parole, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de cette grâce qui est la nôtre, de t'appartenir. Seigneur, nous reconnaissons aussi, Seigneur, que sans la présence de l'Esprit-Saint en chacun de nous, Seigneur, c'est absolument impossible de vivre la vie chrétienne. Seigneur, nous te prions de nous accorder toute l'attention nécessaire, Seigneur, afin que nous puissions bien entendre ta parole ce matin et que nous puissions avoir cette grâce de pouvoir la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur, afin de pouvoir être efficaces, Seigneur, et que nous puissions glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus, amen.
Amen.
Avez-vous déjà été apeuré ou avez-vous déjà senti le besoin de courir? Vous avez certainement eu cette expérience humaine à quelque part dans votre vie et qui est commune, car elle arrive très souvent. Mais il semble qu'il y a quelque chose comme un exploit, une course épidémique contre la montre de nos jours. Et les plus grands responsables sont les hommes. Remarquez combien d'hommes sont à la course dans notre culture. Voici quelques statistiques. En Amérique, un tiers des enfants ne vit pas avec son père biologique. Plus de 50 millions d'enfants s'en retournent à la maison et n'ont pas de père. 70 % des hommes en prison ont grandi sans un père. Les hommes s'enfuient de leurs femmes, de leurs enfants, de leur foyer, de leurs églises, de leurs responsabilités, pouvons-nous ajouter aussi. Il y a de moins en moins de présence mâle à la chair, c'est-à-dire au pupitre et dans les bains. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les hommes s'enfuient-ils? Pourquoi ne gardent-ils pas leurs paroles, leurs promesses? Eh bien, il y a beaucoup à voir avec le courage. Le courage veut dire que vous ne courez pas, que vous ne vous enfuyez pas lorsque les choses deviennent difficiles. En fait, ce mot « courage » est utilisé dans les Écritures quelques 40 fois dans l'Ancien Testament. Et on le retrouve ici dans Josué 1, trois fois, au verset 6, 7 et 9. Ce mot « courage », on pourrait lui donner une connotation de fermeté, de constance, de persévérance, de force d'âme. On pourrait même y ajouter de l'endurance, le fait de ne pas courir, de ne pas s'enfuir en face du danger, de l'épreuve ou de l'opposition. Et la raison pour laquelle il a été donné à Josué ce triple commandement est parce que Josué a besoin de courage. Pour bien comprendre pourquoi, vous devez vous familiariser au contexte historique du temps et aussi à ce qui est plus près de nous, dans l'immédiat, dans notre proximité immédiate. Vous vous rappellerez peut-être, la dernière fois, nous nous sommes posé cette question, pourquoi Josué a-t-il besoin de courage? Nous avions donné quatre raisons. La première, c'est que Josué a besoin de courage en regard au passé. Nous avions vu qu'il pouvait aisément se remémorer ce qui s'était passé il y a quelque 40 ans. Vous pouvez vous identifier à cela certainement dans votre vie, à des circonstances quelquefois bonnes ou mauvaises qui sont scellées dans votre mémoire et qui semblent qu'elles sont arrivées comme hier. Vous ne pouvez les oublier. Les mauvaises peuvent avoir des effets de hantise. Josué se tient sur le bord de la terre promise, du pays promis, et il ne pouvait oublier le passé. Nous avons le récit dans Deutéronome 13 et 14. Il a entendu les clameurs et les cris des incroyants. Il ne croyait pas qu'il pourrait entrer dans ce pays que Dieu leur avait promis. Pourquoi? Parce que l'ennemi était trop fort. Les hommes d'Anak étaient des géants. Les cités étaient trop bien fortifiées. Et on se rappellera que 10 des 12 espions ont vu seulement les obstacles et les difficultés. Et la panique s'est installée et tout le peuple d'Israël a pris peur. Dieu les a châtiés pour leur incrédulité, leur désobéissance. Ils en ont payé un terrible prix pour leur péché. Donc, Josué n'a pas oublié cette expérience douloureuse, décourageante, désillusionnante, et cela pour lui avoir suscité quelque peur ici, dans le chapitre 1, et qu'il sente le besoin de fuir. Le deuxième point, c'était en regard à lui-même. Josué était un homme de chair et de sang. Une autre raison pourquoi il a pu être apeuré et s'enfuir au verset 1 et 2. Deux fois, il nous est dit que Moïse est mort. Ceci en soi est une pensée quelque peu effrayante. Quelle attitude d'élément de frayeur c'était du fait que c'est lui à qui avait été donnée la direction de conduire, la direction de leadership. Cela, certainement, a dû l'énerver et ainsi que sans doute produire un peu d'anxiété. C'est une chose de supporter un conducteur comme Moïse, mais c'est une autre chose que d'être l'homme en charge. De plus, de savoir que tout est sur vous, que tout le poids, le fardeau de la tâche est sur vous, vous êtes responsable pour tout ce qui arrive, Josué a besoin de courage. Donc, en regard du passé, en regard à lui-même, il doit conduire les troupes. Le troisième point qu'on avait vu, la troisième raison, pourquoi il aurait pu sentir le besoin de s'enfuir, étaient les obstacles majeurs qui se trouvaient juste en face de lui. Le moment présent, ce qu'il y avait en face de lui. Dieu a clairement commandé à Josué de se lever et de traverser le Jourdain. C'est comme de lui demander d'escalader le mont Everest. Pourquoi dire cela? Eh bien, à ce moment de l'année, c'était la marée haute dans ce fleuve Jourdain. Le Jourdain était à son pire. Il pouvait voir le courant, et j'imagine entendre aussi le courant orageux, juste là devant lui. Comment pouvez-vous amener avec vous 2 millions de personnes à traverser cette rivière en tumulte? C'est s'attendre à une catastrophe à coup sûr. Josué a besoin de courage alors qu'il regarde au passé, à lui-même et à la situation présente qu'il est en train de vivre. Et une autre raison qui avait été donnée, à savoir pourquoi il aurait pu sentir le besoin de s'enfuir lorsqu'il regarde en avant à son lendemain, au futur, à l'avenir. Et c'est souvent là que la peur s'installe et qu'elle vit. C'est là que se dirige tout le focus, l'attention. À Josué a été donné le défi, la tâche de conquérir le pays. Il connaît quelque chose de ce pays. Il l'a espionné plutôt quelques 40 ans passés. Il savait que ce n'était pas très accueillant. Dieu ne lui donnerait pas ce pays sans effort et sans sueur, et sans qu'il ait à se battre. Des ennemis forts, des cités bien fortifiées devront être vaincus. Ce n'était pas un petit boulot, si on peut dire ainsi. Mais la réponse est-elle de s'enfuir? Non. Dieu dit très clairement à Josué, « Lève-toi, traverse. » Josué, tu as besoin de courage, reste dans la mêlée, dans la course. Josué, ne sois pas comme un autre de ces hommes qui filent, qui s'enfuient. Certainement, une clé pour la constance, la fermeté, pour la persévérance, sera sa foi en Dieu et en ses promesses. Et nous avions vu aussi dans un message précédent concernant les promesses qui ressortent ici dans le chapitre 1. Vous avez la promesse de la provision divine au verset 3 et 4. Vous avez la promesse de la protection divine qui est mentionnée au verset 5. Et vous avez la promesse de la présence divine au verset 9. Ainsi, Josué a ces trois piliers de promesses auxquels il peut s'accrocher lorsque les choses se corsent. Mais maintenant, Dieu a donné à Josué quelque chose d'autre qui va l'aider. Un autre don, pouvons-nous dire, une épée au verset 8. Non pas une épée physique, mais une épée spirituelle. Alors nous allons regarder à l'épée que Dieu a donné à Josué sous trois perspectives simples. La première, c'est la forme et l'importance de l'épée. La deuxième, c'est l'utilité et l'exercice de l'épée. Et le troisième, c'est l'encouragement et la motivation d'utiliser l'épée. Donc, notre premier point, c'est la forme et l'importance de l'épée. La parole de Dieu dans le Nouveau Testament est placée ou est représentée sous ce graphique d'une épée. Dans Éphésiens 6, il nous est donné cette image d'un soldat avec toute cette armure. Et on se rappellera peut-être, ceux qui étaient ici, que Rénal nous avait apporté une série de messages sur toute l'armure du croyant qui avait été décidée par Francine. Elle avait fait une espèce de puzzle, puis au fur et à mesure, on voyait les puzzles se mettre en place. Alors, dans Éphésiens 6, on a ce graphique de cette armure d'un soldat que Paul nous donne. Certains pensent que Paul avait ce soldat, cette image de soldat romain, parce qu'il était gardé à Rome par un soldat romain, plusieurs soldats romains d'ailleurs. Et il y avait peut-être cette image de soldat romain en face de lui, et alors qu'il écrit cette épître. Et peut-être qu'il l'a utilisé en quelque sorte comme modèle pour dessiner cette image. C'est une chose possible. Il y a aussi quelques détails en ce qui regarde le guerrier que nous retrouvons dans le livre d'Ésaïe, duquel il a aussi certainement pu s'inspirer. Nous avons donc ici, dans Éphésiens 6, il y a 6 pièces d'armure que le soldat doit porter pour sa défense, pour sa protection plutôt. 5 sont de nature défensive. Et celle que nous voulons mettre l'accent ici est l'arme offensive que Dieu donne à chaque soldat chrétien. C'est l'arme de l'épée. Où il nous est dit dans Éphésiens 6, 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Certains ont des Bibles, la plupart des Bibles, beaucoup de Bibles anglaises, en français j'en ai pas vu, mais en anglais, ils ont des notes de bas de page, dans le bas de la page. Je pense que la Bible, la Thompson, a ces notes-là en bas de page. Et vous pouvez voir que l'épée, dans cette petite note-là, certains ont cette notion-là, que l'épée est une épée qui est petite et qui est courte. C'est un peu comme une dague. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une dague. C'est à peu près 18 pouces de long. C'était une épée de précision qui était utilisée dans les combats corps à corps. Et peut-être vous avez déjà vu un film, j'ai déjà vu des films de soldats romains, puis qui avaient cette petite épée-là. Alors cette épée-là est pour les combats corps à corps, ils ont plus de façon de facilité d'atteindre l'ennemi dans des points précis. Donc Paul n'utilise pas l'autre mot pour épée, qui est plus grande et plus effilée. Alors, on connaît toute cette grande épée-là. Et cette épée-là était tellement, en plus d'être grande, était lourde parce qu'il la prenait à deux mains. Alors, c'était quand même un bon morceau de métal. Nous disons ceci parce que l'épée que Dieu donne à Josué est une épée plutôt très petite. Plus petite que celle que vous avez présentement dans vos mains. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, regardez dans Josué 1:8. Nous y voyons une description de l'épée ici. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Le livre de la loi ou le livre de la Torah, ça s'appelait la Torah. Le mot Torah signifie littéralement de pointer vers ou de diriger, d'indiquer. La Torah est la direction de Dieu, l'instruction et l'enseignement dans la doctrine. Et antérieurement à Josué, l'instruction que Dieu a donnée à son peuple venait du prophète Moïse. C'était une communication verbale et Moïse était le porte-voix, le porte-parole, le prophète de Dieu. Mais dans ce temps-là, dans le temps de Josué, et probablement dans les dernières années de Moïse, Moïse avait un livre, le livre de la loi. Il l'avait mis par écrit, à tout le moins, de grands segments, et c'est ce qui est appelé la Torah. La Torah, c'est les cinq livres de la Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Ainsi, à partir de ce moment, dans la vie de la nation, ils auraient une Bible, une petite Bible, la Torah, les cinq livres de Moïse, les cinq livres du Pentateuque. Ce livre, la Torah, la loi, sera le guide de Josué alors qu'il conduira le peuple dans la terre promise, dans le pays promis. Maintenant, ce qui est frappant ici est que le conducteur militaire ici, Josué, le commandant militaire, a à la main une Bible. Mais si vous le mettez en rapport avec sa qualité de leadership, de chef, c'est la raison pourquoi il a besoin d'une Bible. Si Josué est pour être un conducteur, un leader, victorieux et courageux, il a besoin de sa Bible. Le livre de la loi doit avoir une place centrale dans sa vie. C'est vital, c'est crucial pour son succès. Tenir son épée, qui est petite, mais c'est rempli de sagesse, de réconfort, de promesses, d'instructions et de conseils. C'est le premier point, la forme et l'importance de l'épée. Notre deuxième point, c'est l'utilité et l'exercice de l'épée. C'est une chose que d'avoir une épée, et c'en est une autre que de savoir comment l'utiliser. Même si vous avez une arme et vous ne savez pas comment vous en servir, c'est la même chose avec la Bible. Beaucoup de gens ont des Bibles dans leur maison, mais combien l'utilisent et combien savent comment l'utiliser? Un sondage Gallup suggère que la majorité des Américains, 82%, croient que la Bible est la parole inspirée de Dieu. 82%. Mais seulement la moitié la lise mensuellement. La moitié de ces gens ne peuvent même pas vous dire où sont les quatre évangiles. Très peu de cette moitié ne savent pas qui a prononcé le sermon de la montagne dans Matthieu. Le plus méritant, le plus affirmatif, était que 84% qui se proclament à être des chrétiens nés de nouveau, des croyants régénérés, pensent que la notion que Dieu aide ceux qui s'aident vient de la Bible. Qu'est-ce que cela nous dit? Simplement ceci. La Bible est dans beaucoup de maisons, mais pas dans beaucoup de cœurs et dans beaucoup d'esprits ou de pensées. Beaucoup de croyants professants n'utilisent pas l'épée. Ils ne sont pas prêts pour la bataille. Et si Josué doit être un conducteur courageux, fort, qui demeure dans la course, demeure dans la mêlée, prêt pour la bataille, il doit faire bon usage de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et il y a trois choses que Dieu lui dit qu'il doit faire ou comment il doit utiliser sa Bible pour qu'il soit prêt pour les défis, les tâches qui sont devant lui. Alors, donc, voici les trois choses qui sont mentionnées. Premièrement, tu dois parler la Bible. C'est ce qui est dit au verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Josué, je ne veux pas simplement que tu lises ta Bible. Je veux que tu parles concernant la vérité contenue dans la Bible. Il y a deux manières de parler de la Bible. Il y a la façon formelle. Et c'est sans doute Josué a assumé ce rôle d'enseignant. Il n'est pas un prophète comme Moïse, mais il donnera des directions et des commandements à la nation. Il sera le porte-parole et il le fait au verset 10 et au verset 11. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Il les commande et met devant eux la parole de Dieu. Il donne le fond des prescriptions données par Dieu et de parler de la Bible. Et il le fait de façon formelle. Mais il le fait aussi, nous pouvons être certains, de façon informelle chaque jour. Josué parlerait aux soldats afin qu'ils soient prêts pour la bataille, pour les encourager avant qu'ils ne sautent sur le champ de bataille. Certainement aussi qu'il parlait à ses amis, aux membres de sa famille, faisant état de la fidélité et de la bonté de Dieu et de leur rappeler que Dieu est conséquent avec lui-même en regard avec Moïse, revenant en arrière avec ce qui s'est passé lors du passage de la mer Rouge et comment il a pourvu avec la manne et tous les autres miracles que Dieu a fait durant le temps qu'il était dans le désert. Josué a vu cela lui-même de ses propres yeux parce qu'il faisait partie du peuple à ce moment-là. Et c'était dans la Torah, dans le livre de la loi. Et Moïse était certainement aussi un père de famille, un papa. Et la fonction du père est de parler, n'est-ce pas, de la parole. Si on lit les proverbes, le père des proverbes, le père qui est mentionné dans les proverbes, a beaucoup à dire à ses fils. Et n'oublions pas que dans Deutéronome 6, qui est une partie de la Torah, Deutéronome 6, les versets 6 et 7, il nous est dit, « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, et quand tu seras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Alors, c'était le devoir du père d'agir ainsi. Ce sont là les instructions données aux pères et aux mères en termes de comment avoir des conversations journalières dans leur foyer. En d'autres mots, Josué, en tant que leader de la nation, alors que tu mèneras l'armée, que tu sois dans ta maison, tu as besoin de saisir toutes les opportunités que tu as durant la journée pour parler de la parole de Dieu. Parler de Dieu à nos enfants devrait être tout aussi naturel que de parler de l'équipe de sport favorite. Cela ne devrait pas être artificiel. Josué, tu es un leader. Tu dois être un exemple. Tu dois être un modèle d'un conducteur pieux. Voici ce qu'un conducteur pieux est et comment il parle. Il parle avec sagesse. Fréquemment concernant la vérité de Dieu contenue dans la parole de Dieu. Il amène la pensée des gens constamment dans la pierre de touche de l'Écriture. Il parle de paroles de rédemption. Deuxièmement, il y a quelque chose d'autre que Josué doit faire s'il doit être et s'il doit utiliser son épée de la bonne façon. Il ne doit pas seulement parler concernant la Bible, mais il a besoin de la digérer dans ses veines, spirituellement. Vous avez peut-être certainement entendu parler de John Bunyan, ce puritain qui, des années 1600 quelques, et ce qui a été dit à son sujet. Il transpirait la Bible. Et vous n'avez qu'à lire un de ses livres, le plus populaire, c'est Le Voyage du Pèlerin. Vous lisez Le Voyage du Pèlerin et ça transpirait la parole. C'était saturé de la parole de Dieu. Josué doit avoir un esprit, doit avoir son esprit, sa pensée et son cœur trempés dans les Écritures. Il doit saturer sa pensée et son cœur avec la Torah, la loi de Dieu. Pourquoi? Au verset 8, il nous est dit, « Tu y méditeras jour et nuit. » Le mot « méditer », ce n'est pas un mot très commun dans notre Bible. Il n'est utilisé que 20 fois dans l'Ancien Testament. Et nous avons une meilleure description de la façon dont il est utilisé dans le psaume 1. On a une meilleure description, une meilleure définition, où il nous est dit au psaume 1, verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Mais il est clair sur ce que le sujet de la méditation doit être. La Torah, le livre de la loi. Et là, on parle dans le contexte de Josué, parce qu'il y avait seulement que la Torah, c'est le livre de la loi, c'est ce qu'il avait à ce moment-là. Tu l'étudieras, tu la liras, mais je veux que tu y médites. Et cette discipline de méditation requiert quelques implications d'engagement et de discipline. Ça requiert quelques gymnastiques. Remarquez la fréquence au verset 8. Tu y méditeras jour et nuit. Non pas une fois par semaine. Non pas une fois par mois. C'est ce qui a été dit à Josué ici. Mais qu'en est-il du psaume 1? Ne parle-t-il pas ici de vous et de moi? De l'homme béni, il médite jour et nuit. Personne ne veut lâcher prise ici. Et pourquoi quelqu'un voudrait-il lâcher prise? Parce que l'homme du psaume 1, la raison pourquoi il médite la Bible, c'est parce qu'il l'aime. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est pourquoi il médite. Nous n'approchons pas la parole de Dieu de façon relative. Est-ce que je vais méditer aujourd'hui? Ouais, je vais penser à ça. Je ne pense pas que ce soit la façon qu'on doit aborder ce thème. Non, vous devriez approcher la parole avec plaisir, avec joie, avec anticipation. Anticiper, ça veut dire désirer ardemment. Les puritains la décrivent comme une lettre d'amour. Ça n'existe plus aujourd'hui, les lettres d'amour. On a les courriels, alors on a des façons beaucoup plus, en tout cas, soi-disant beaucoup plus up-to-date, si on peut dire, de cette façon-là, pour se parler. On se texte, puis en se textant, on ne comprend pas nécessairement les mots. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de comprendre les mots de ceux qui se textent. Là. C'est tout en abrégé, c'est quelque chose, c'est un peu comme de la sténo, là, tu sais, dans le temps, dans mon temps, les ceux qui voulaient être secrétaires, ils apprenaient la sténo. C'est un moyen contrat que d'essayer de défricher c'était quoi, là. Moi, je dis, je compare un peu la façon qu'ils textent. C'est pas négatif que je dis ça, les gars, chaque stage de l'évolution, à un moment donné, on a notre façon de faire, mais pour en revenir, pour pas digresser trop, dans le temps où il y avait des lettres où le jeune homme écrivait à sa dulcinée une lettre d'amour et que la jeune fille attendait dans le courrier d'avoir cette lettre et aussitôt que le facteur passait, on se rappellera peut-être tous les films à l'eau de rose, moi j'appelle ça des films à l'eau de rose qu'on voit là, à la télévision, des vieux films avec Clark Gable puis ces vieux acteurs-là. Ou quand il écrivait des lettres puis que la jeune fille, elle attendait, elle anticipait la lettre. Et j'ai cette pensée-là aussi, pensée aux soldats lorsqu'ils étaient dans les tranchées, puis dans les moments libres, ils écrivaient à leur fiancée une lettre. Et quand la lettre arrivait, probablement qu'elle la lisait, elle anticipait la lettre, puis elle la lisait peut-être pas qu'une fois, elle pesait chaque mot. C'était quelque chose d'important. Et les puritains mettaient un peu, ils voyaient un peu ça de cette façon-là, la parole de Dieu, d'avoir comme une lettre d'amour. Alors, ceux qui reçoivent une telle lettre ne disent pas « encore une autre lettre », pas « encore une autre lettre », ils ne m'écrivent pas « encore une autre lettre ». Ils désirent la lire, et non pas une seule fois, mais plusieurs fois. Ils s'attardent à chaque mot. C'est ainsi avec le croyant, se délectant, prenant plaisir avec la lettre d'amour de Dieu, prendre plaisir dans la parole de Dieu. Et le mot « méditation » signifie murmurer, chuchoter. Il nécessite une activité vocale. Mais ce n'est pas la manière que nous avons appris ici dans la civilisation occidentale. Nous avons appris plutôt à lire notre Bible silencieusement. Donc le mot méditation veut dire aussi chuchotement, parler à voix basse, à tout petit mot. Il y a cette activité vocale. Et le point important avec la méditation est que vous pouvez le faire en toute occasion, jour et nuit, partout, en conduisant l'auto. Mais là, en conduisant l'auto, il faut quand même être sécuritaire. Là. Mais en faisant du sport, dans beaucoup d'activités, c'est accessible de toutes sortes de façons. Mais ce concept de méditation ne met pas tant l'emphase sur une activité verbale, d'un chuchotement, mais sur une discipline de pensée réfléchie. Et c'est ce qui est important ici d'accentuer, de souligner, parce qu'aujourd'hui, le concept de méditation a été en quelque sorte détourné un peu par les religions orientales, qui consistent en ce processus de faire le vide mental. On voit, si vous lisez des livres, vous regardez ceux qui font du zen, là, puis qui font de la méditation transcendantale, là, ils ont toutes sortes de... Là, faut que tu fasses le vide mental pour pouvoir remplacer ça par d'autres choses. Alors donc, faire le vide mental est en opposition à une activité mentale qui est absorbante, quelque chose qui est réfléchi, qui est pensé et auquel on s'adonne. C'est ce qui en est pour le croyant. C'est une activité mentale absorbante. J.I. Parker donne cette description de la méditation. Il nous dit « La méditation est l'activité d'appeler à la pensée et de réfléchir, d'insister et d'appliquer à soi-même les choses diverses qu'une personne sait concernant l'œuvre, la manière, les buts et les promesses de Dieu. C'est une activité de pensée sainte, consciencieusement exécutée dans la présence de Dieu, sous le regard de Dieu, avec l'aide de Dieu comme un moyen de communication pour entrer en relation avec Dieu. Josué, tu as besoin d'être fortifié et d'être courageux, et cela signifie que tu dois faire bon usage de ta Bible, de ta Torah. Ne fais pas seulement y jeter un coup d'œil occasionnellement. Ne fais pas seulement patauger dans les doctrines de la Bible. Je veux que tu parles de la Bible, que tu la digères et que tu la médites. Mais il y a quelque chose d'autre, Josué, que tu dois faire en termes d'utiliser et d'exercer la Bible. Tu dois mettre en pratique la Bible. C'est sur quoi les versets 7 et 8 mettent l'emphase. Il y a 82 mots et 45 de ces mots ont à voir avec l'obéissance. Donc, plus de la moitié des mots dans ces deux versets-là ont une connotation, une référence à l'obéissance. C'est ce que Josué doit faire. Notez d'ailleurs la répétition au verset 7. « En observant et en mettant en pratique » et au verset 8, « pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. » Alors, il est répété deux fois. Si vous êtes déjà allé à Niagara Falls ou peut-être aux chutes Montmorency, c'est à peu près le même. Vous entendez le bruit des. Si vous êtes allé près, là, vous entendez le bruit de grondement comme un tonnerre, un bruit grondement, un sourd. Quand on entend l'eau le descendre, c'est vraiment comme un gros grondement là, de tonnerre. C'est quelque chose qui résonne. Et c'est ce qui ressort ici de notre Bible, encore et encore. Le mot obéissance, obéissance, obéissance. Et vous l'entendez dans toutes les portions des Écritures. Au début, au milieu, à la fin. Il vient de la bouche de Moïse. C'est comme le son du tonnerre au mont Sinaï lorsqu'il reçoit les 10 commandements, vous vous rappellerez. Dieu conduit son peuple lorsqu'il sortit d'Égypte. Je veux que vous soyez un peuple distinct. Je veux que vous soyez saints. Josué, c'est ce qui est mis en évidence ici. Tous les oracles des prophètes, vous lisez le psaume 1, les proverbes, pensez à l'emphase que ce père place sur son fils dans les premiers chapitres en termes de sainteté. Pensez à l'enseignement de Jésus. Lisez le sermon sur la montagne. Tout est à propos d'une vie de droiture, de justice. Une justice qui dépasse, qui excède plutôt celle des scribes et des pharisiens. Et Jésus ici ne parlait certainement pas de la justice imputée, mais bien de la justice pratique, personnelle, celle de la sanctification. Une justice qui est constante et qui est consistante avec aimer ses ennemis. Une justice qui signifie que je sers Dieu et non pas l'homme. Une justice qui signifie que je pratique la discipline spirituelle de prière, du jeûne, de la générosité. Une justice d'une porte étroite et d'une voie étroite. Josué se fait rappeler ici, n'est-ce pas, au verset 7, en termes de chemin étroit de la justice. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeu, ni à droite ni à gauche. Alors, faut que tu demeures dans le centre. Ce que Dieu dit, il y a un chemin étroit, Josué, et tu dois t'y coller. Cette scène de justice ne devient pas la moindre des choses après la mort de Christ, mais encore plus. Chaque épître, que ce soit par Paul, par Jean ou par Pierre, nous donne un traitement détaillé de justice, une clarté dans l'appel à l'obéissance. Josué, je veux que tu lises ta Bible, que tu l'étudies, que tu la connaisses, que tu y médites, mais ce ne sont pas des fins en elles-mêmes. Il y a quelque chose de plus qui devrait vous conduire et vous porter, et c'est le sentier de la justice. Ne soyez pas simplement quelqu'un qui parle de la Bible. Beaucoup de personnes peuvent citer la Bible dans des conversations concernant des enjeux théologiques, mais cela doit aller plus profond que ce que vous disiez, que votre bouche, que votre parole. Ne soyez pas seulement des penseurs de la Bible. Vous pouvez connaître beaucoup de théologie en mettant les barres sur les T et les points sur les I. Lorsqu'on en vient à l'orthodoxie, à la droiture, à la justesse de l'Écriture. Mais si c'est tout ce que vous avez, eh bien vous manquez le bateau. Sois actif, Josué. Observe et mets en pratique, Josué. Et vous avez besoin de courage pour cela, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas cela que c'est ce qui est dit ici dans ce passage? Il est plutôt facile de parler et d'étudier la Bible. Mais lorsque vient la pratique, lorsque vient le temps de l'activer, de la mettre active dans notre vie, de l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans le train-train quotidien de la vie. Lorsqu'il vient temps de dire non au péché, de plaider avec mon orgueil, avec mon égoïsme et de développer ces grâces d'humilité, d'abnégation, d'amour. Lorsque cela demande de servir d'autres gens, de s'impliquer dans leur vie qui sont tellement gâchées par le péché, c'est plus difficile de mettre en pratique, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas pourquoi nous avons besoin de courage? Courage pour obéir, courage pour faire les choses justes. Tous les jours, il y a des pressions titanesques, du dedans, de l'intérieur, de l'extérieur, pour désobéir, de faire mes propres affaires, de vivre pour soi-même. Et qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile? Est que Dieu nous demande en termes de sainteté et d'obéissance. Ce n'est pas seulement une chose intensive. Non seulement c'est une obéissance du cœur, mais c'est étendu, c'est plus étendu, c'est approfondi. Être saint dans toutes les phases, dans les attitudes, dans les comportements de la vie. C'est ce que le verset 7 met l'emphase. Toute la loi, tout ce qui est écrit. Josué, je ne veux pas que tu sois celui qui choisit, qui picosse ici et là, qui trie. En anglais, on appelle ça un picker. Pique un peu ci, je pique les choses qui me font mon affaire. Tu dois prendre égard à tous les commandements de Dieu, comme le psalmiste le dit. L'obéissance et la justice, mais la justice étendue, une justice d'ensemble, une justice qui est approfondie, qui pointe. Nous pouvons être reconnaissants, n'est-ce pas, si nous sommes croyants, que nous n'avons pas seulement le commandement d'obéir, mais Dieu nous a donné la puissance pour obéir. Sans l'Évangile de Christ, sa résurrection, cela est impossible. Dieu nous a donné son esprit. Il a changé nos cœurs. Et je ne peux garder la loi parfaitement. Personne ne le peut. Mais je peux, par sa grâce, la garder à la mesure de l'Évangile. Josué, utilise ton épée. Sois prêt pour la bataille. Parle de la Bible. Médite et mets-la en pratique. La forme et l'importance de l'épée, l'utilité et l'exercice de l'épée. Notre troisième point et dernier point, l'encouragement et la motivation d'utiliser l'épée. Dieu sait si bien que ses commandements et devoirs en rapport avec la sainteté peuvent être accablants. Et Josué aurait pu facilement être écrasé par l'assignation qui lui a été donnée, et ce de plusieurs points de vue. Du point de vue militaire, du point de vue de leadership, de direction, et certainement du point de vue spirituel, par l'utilisation de sa Bible de la bonne façon. Cela pourrait nécessiter des efforts herculéens de foi pour faire certain que ce livre de la loi, la Torah, ait cette place centrale dans sa vie et dans la vie de la nation à laquelle il était le conducteur, le leader. La pression, Josué, les défis, les soucis de ce monde ont tous une parole urgente pour te dire « Fais ceci au lieu de passer du temps dans ta Bible. » Il y aura un temps, Josué, où cela ne te tentera pas de la lire. Il n'y aura pas de plaisir. Il y aura un temps que tu te demanderas « Qu'est-ce que je peux réellement y gagner à lire ma Bible? » Quel en est l'avantage? Quel bénéfice puis-je en tirer? Il y a des temps où nous nous trouvons au milieu des épreuves. Et n'est-ce pas que c'est le grand danger? Et vous vous rappelez, Moïse, à plus d'une occasion, en est venu avec un poids lourd de désespoir, de découragement. Et dans ces temps-là, c'est très difficile de garder un motif qui est conséquent, qui est fidèle en ce qui a trait à garder notre fidélité à lire notre Bible, à méditer et même à en parler. Quelquefois, cela est difficile, n'est-ce pas, de mettre un pied devant l'autre. Il y a des peurs de l'intérieur et de l'extérieur. Et qu'est-ce que Dieu dit à Josué pour l'aider, pour garder son nez dans sa Bible et garder ses pieds dans ce sentier étroit de l'obéissance? Eh bien, il a une autre promesse ici. Dieu aime à donner des promesses. Il y a de ces promesses que Pierre décrit comme étant les plus précieuses et les plus grandes, qu'il nous dit. Et nous avons une de ces promesses juste ici au verset 7. C'est une promesse encourageante et motivante. Au verset 7, il nous est dit, à la fin du verset 7, « afin de réussir partout où tu iras ». Et au verset 8, il nous est dit, « c'est alors que tu réussiras ». Mais j'aime mieux le terme anglais, ça, on dirait que ça, si vous connaissez un peu l'anglais, dans le verset 7, il nous est dit, « that you may prosper », afin que tu prospères. Il me semble que ça rend plus le... beaucoup plus la désignation. Et au verset 8, il nous est dit, « You will have good success. » Alors, encore là, ça rend plus l'image, vraiment, de ce qu'il voulait dire. Non pas de la manière dont le monde le fait, mais selon la pensée de Dieu. Dieu a sa propre définition du succès. Ce n'est pas le succès d'Hollywood. Ce n'est pas mesuré par la grosseur du compte de banque ou de la grandeur de votre maison ou que vous ayez votre face dans le plus prestigieux magazine populaire. Ce n'est pas ça le succès. Le succès dans les Écritures est mesuré par une vie qui est vécue dans l'obéissance, en grosses lettres, puis en plus grâce. Dans l'obéissance à Dieu. C'est une vie spirituelle qui porte des fruits et une vie de fidélité. C'est le psaume 1. C'est une vie de stabilité, si vous le disiez au début du psaume 1. Une vie de stabilité, de résistance, de durabilité. Il parle dans le psaume 1 de l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Alors, il étend ses racines, puis il plonge les racines. Puis c'est solide, alors contre vents et marées, il est armé pour faire face à la situation. C'est une vie où quelqu'un s'abandonne et perd sa vie parce que Jésus dit dans Matthieu 10, 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ce n'est pas facile, Josué. Cela requerra de la diligence, des efforts pour faire certain que la Bible est une place centrale dans ta vie. Mais Josué, c'est la clé du succès. Et comme conclusion, aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui sont en difficulté spirituellement. Et ça, on en parle régulièrement dans les messages et lorsqu'on s'entretient même entre nous autres. On n'a qu'à aller sur Internet et écouter des fois des prédications. Des fois, c'est comme... ça laisse des points de suspension. Nous sommes témoins dans ces temps-ci que nous vivons du christianisme le plus faible, le plus anémique. Quand on parle d'anémie, là, c'est la pauvreté du sang. Et on sait que le sang, c'est la vie. Alors, si ton sang est pauvre, il est anémique, il y a un problème majeur là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et nous pouvons croire que Josué 1, 7 et 8 en donne la réponse. La parole de Dieu est en état de disparition de la chair, du pupitre, des foyers, de nos maisons, des cœurs, des pensées, des esprits. Vous et moi avons besoin des Écritures si nous voulons être des croyants forts. C'est aussi simple que cela. Vous délectez-vous dans la parole de Dieu? Prenez-vous plaisir dans la parole de Dieu? Est-ce que vous lisez votre Bible? Est-ce que vous étudiez votre Bible? Est-ce que vous mettez en pratique votre Bible? Ou permettez-vous que les affaires du monde, les soucis de la vie, les mille et une distractions et plaisirs de ce monde présent vous éloignent de votre Bible. Si nous marchions dans votre maison, et ici, peut-être ta situation s'applique plus aux pères qui ont des enfants dans une famille où il y a des enfants. Est-ce que nous entendrions parler le Père de la parole de Dieu? La parole de Dieu est en état de disparition de la chair, des foyers, des cœurs et des pensées. Prenons à cœur ce que Dieu dit à Josué. Soyons des hommes et des femmes qui aimons notre Bible, qui la méditons, qui étudions notre Bible, qui parlons de la Bible et qui la mettons en pratique dans nos vies. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ta parole qui est esprit et vie, Seigneur. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour les vérités qui sont incluses dedans, Seigneur. Cette vérité qui est absolue, Seigneur. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de déviation ni à gauche ni à droite, Seigneur. Nous devons rester centrés sur ta parole pour pouvoir continuer, Seigneur, à vivre de façon sainte pour toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre les principes de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à l'étudier, Seigneur, à la méditer, à la mettre en pratique dans nos vies. C'est alors, Seigneur, que nous allons prospérer, que nous allons réussir comme ta parole de Dieu nous le dit. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.